بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Chers frères, on a vu hier Malik Yawmiddin et on avait vu le sens profond du terme Malik et on avait vu également le sens de Yawmiddin, le jour de la rétribution, ce jour des comptes, le jour où on retourne auprès d'Allah, où chaque personne répond de ses actes, de ses faits, de ses gestes, de ses paroles, de tout ce qu'elle a pu cumuler comme bonnes œuvres ou mauvaises œuvres, bonnes actions ou mauvaises actions de ce dunya. Ça c'est Yawmuddin, ça c'est le jour de Qiyam. C'est également le jour où Allah Azza wa Jal va faire justice. Et la justice d'Allah Azza wa Jal, elle est parfaite. Allah il est adl, hakim. Allah est sage, Allah est juste. Et le jour de Qiyam, donc les personnes qui ont subi des préjudices dans ce monde verront inshallah les rétributions, les compensations, le jour de Qiyam. Donc on avait dit que quand on se tient debout dans la salat, on lit ou on entend Ihdina as-sirat iyyaka na'budu. Non pardon, Malik yawmiddin, ça doit susciter en nous deux sentiments. Premièrement, un sentiment de peur, de crainte, de prise de conscience qu'un jour on retourne auprès d'Allah et c'est le jour yawmiddin, le jour où on répond de nos actes. Donc nécessité de se préparer. Nécessité de se préparer. Supposez que vous recevez, Allah nous protège, une personne reçoit une convocation pour le tribunal, d'accord, pour tel ou tel fait, et donc on nous reproche telle chose, d'accord. On sait que la convocation c'est pour dans 2 mois. Mais entre temps, la personne va faire quoi? Elle va préparer sa défense. S'il veut trouver un avocat, ou s'il veut trouver les arguments, il sait déjà qu'est-ce qu'on va lui reprocher, comment répondre. Mais pour le Qiyama, il n'y a pas besoin de chercher un avocat, comme on l'a dit. Il n'y a pas besoin de chercher des gens qui vont nous défendre. Il n'y a même pas besoin de chercher des excuses pour les péchés. Il n'y a même pas besoin de chercher des excuses pour le non-accomplissement de bonnes œuvres, de bonnes actions. Parce que devant le tribunal d'Allah, Azza wa Jal, il n'y a aucune réponse à donner. Il n'y a aucune discussion. Il n'y a pas de débat. Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Parce que lorsque un péché a été accompli par inadvertance, de toute façon, il est pardonné par Allah. Si quelqu'un accomplit un péché sans savoir, sans connaître que c'était haram, de toute façon, Allah Azza wa Jal va pardonner à cette personne. Si quelqu'un avait accompli un péché par erreur, Allah Azza wa Jal de toute façon pardonne, sans même que la personne demande pardon. Si un péché a été accompli par oubli, on avait oublié, Allah Azza wa Jal également pardonne. Si un péché a été accompli par contrainte, quelqu'un vous oblige à faire quelque chose de mal et on n'a pas le choix, soit vous faites, soit il vous exécute ou je sais pas quoi, là aussi Allah Azza wa Jal pardonne. Car le prophète alayhi salat wa sallam, j'ai un hadith, rufi'a an ummati al-khata wa an-nisyan, parmi les choses qui sont pardonnées à ma communauté, les erreurs, ce qu'on ne connaissait pas, an-nisyan, ce qu'on fait par erreur donc, an-nisyan, l'oubli, et quand on fait quelque chose par contraint. Donc maintenant, il reste les péchés qu'on a fait ciment, volontairement. Donc pour ces péchés-là, il n'y a pas à se dire que si Allah me demande pourquoi je n'ai pas fait cela, il faut que je réfléchisse. Alors je prends mon GSM, j'écris dans les notes là, notebook, ou alors je commence à écrire sur un calepin. Je vais dire qu'il y avait trop de devoirs à faire. Je vais dire qu'il n'y avait pas assez de temps pour me reposer. Il n'y a rien, il n'y a pas besoin de préparer notre défense devant Allah Azza wa Jal. La seule chose qui peut nous défendre, entre guillemets, c'est le tawba. Si on a fait tawbah, on a demandé pardon à Allah pour les péchés accomplis, ça c'est notre meilleure défense. Parce que lorsqu'Allah Azza wa Jal voit un serviteur demander pardon, Allah Azza wa Jal accorde automatiquement le pardon. Bien sûr, comme on l'avait expliqué dans Riyad al-Salihin, si les conditions du tawbah sont réunies, la personne doit être sincère, la personne doit regretter les péchés qui ont été accomplis, et la personne doit faire azm, doit prendre la résolution de ne plus recommencer, de ne plus répéter les mêmes erreurs. Si ces conditions sont réunies et qu'on a demandé pardon à Allah, Allah Azza wa Jal va accepter le pardon. Donc le premier sentiment qui doit émerger de notre cœur quand on lit Malik Yawmiddin, c'est qu'un jour je retourne auprès d'Allah, à moi de me préparer. Et on se prépare en accomplissant les bonnes actions et en restant éloigné des péché. Les deux, ça marche ensemble. On verra dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Les deux, ça marche ensemble dans le sens de sirat, dans le sens de na'budu. Ensuite, le deuxième, la deuxième sensation, le deuxième sentiment plutôt qui doit émerger de notre cœur lorsqu'on entend le imam lire Yak Malik Yawmiddin ou alors que nous-mêmes on lit, c'est l'espoir, la prise de conscience que le tribunal d'Allah Azza wa Jal existe et c'est un tribunal qui est juste où aucune injustice de ce dunya ne va passer au travers. Et on avait vu hier le hadith du Mouflis, celui qui est soi-disant, en guillemets, pieux, l'homme qui fait de bonnes œuvres, l'homme qui fait le hajj, qui fait le umrah, qui lit le Coran, qui fait dhikrullah, qui fait. Et quand on le regarde, on dit, mashallah, ça c'est un waliullah, ça c'est un homme pieux, mais par derrière, il a été injuste avec sa femme, parfois. C'est pas forcément été injuste avec des gens dans le travail, c'est avec son épouse, injuste, avec ses enfants, avec ses proches, avec des personnes éloignées. Le jour de Qiyama, Allah Azza wa Jal lui fera répondre de ses erreurs par une transaction des péchés et des bonnes actions. Et ça, c'est le pire des scénarios. Vous savez, il y a des fois où où Allah Azza wa Jal va pardonner les péchés d'un serviteur. On s'éloigne un petit peu, mais ça reste quand même de le sujet. Il y a des fois où Allah Azza wa Jal va pardonner les péchés d'un serviteur par le biais des épreuves, ibtila. Et ça, c'est un sens qu'on a besoin un jour de développer, de comprendre à travers, Inch'Allah, la foi sur le destin. Comme on l'avait rappelé hier, ça s'est prévu dans Riyad al-Salihin, le sixième pilier du iman, de la foi, al-iman bil-qada'i wal-qadri. Comme on a appris, wal-qadri khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Donc, il y a des fois où Allah Azza wa Jal va pardonner les péchés d'une personne par le biais des épreuves, la maladie. Une personne qui tombe malade, ou une personne qui voit ses enfants malades, ce sont là des moyens pour qu'Allah Azza wa Jal pardonne les péchés. Et dans ce dunya, dans ce monde, la personne peut penser que cette vie est dure, que cette vie est, peut-être la personne va trouver que c'est injuste. Comment est-ce qu'il y a autant de difficultés? Ma vie est un cauchemar sans fin. De jour en jour, j'ai des problèmes. Je ne suis pas comme une famille normale, ils vivent bien, ils sont heureux. J'ai toujours des problèmes, les enfants, malades, moi-même. Mais pas de, quand on dit malade, ce n'est pas il était à nu de coup, la grippe. Non, c'est vraiment des gros problèmes. Mais vous savez, quand Allah Azza wa Jal éprouve les gens de cette façon, c'est qu'Allah Azza wa Jal aime ces personnes. Le hadith, en ce sens, pour ça me dit, lorsqu'Allah Ta'ala aime une personne, Allah Ta'ala va l'éprouver. Parce que par le biais des épreuves, Allah Ta'ala augmente le darajat, le degré de la personne, Allah lui accorde des récompenses, des hasanat, et Allah Azza wa Jal pardonne les péchés de cette personne. À un tel point que, dans un hadith, le prophète Ali salatu wassalam dit, ma yazalu al-bala'u bil-abd al-mu'mini hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alayhi min khati'a. Il y a des fois, en ce sens, il y a des fois où Allah Azza wa Jal éprouve tellement une personne que, au fur et à mesure que les jours passent, les épreuves se cumulent ou tout simplement les épreuves persistent, mais la personne a l'impression qu'elle est accablée, mais en fait là, à chaque fois, son livret de compte est remis à zéro. Par rapport aux épreuves, les péchés sont automatiquement effacés. Et la fin du hadith, il est magnifique. Hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ard. On avait déjà expliqué ce hadith dans Bab al-Sabr. Hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ard. Un tel point qu'Allah Azza wa Jal laisse cette personne, la métaphore elle est puissante, la personne marche sur la terre, c'est-à-dire la personne vit, elle n'est même pas consciente que qu'il n'y a pas un seul péché dans son livret de compte. Parce que la personne subit des difficultés et la personne fait preuve de sabre bien sûr, fait preuve de patience. La personne sait s'en remettre à Allah, il sait que ça vient de la part d'Allah et je suis patient. Donc, au fur et à mesure, les péchés de la personne sont automatiquement effacés. Maintenant, la personne, quand elle se présente devant Malik Yawmiddin, devant Rabbul Alamin, le jour de Qiyamah, qu'est-ce qu'il y a de son livret de compte comme péché? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que la personne a vécu difficulté sur difficulté jusqu'au dernier moment de sa vie. Est-ce que le jour de Qiyamah, ce ne sera pas l'homme le plus heureux au monde? Le plus heureux, pas au monde, le plus heureux de l'au-delà, parce que ce monde-là, il ne compte plus. Ce sera l'homme le plus heureux de l'au-delà. Et quand on est heureux là-haut, regarde plus devant derrière. Ni à droite, ni à gauche. Quand on est heureux dans l'au-delà, Allahu Akbar, c'est fath min Allah, c'est l'accès au paradis. Et quand un homme, quand un croyant va au paradis, je vous assure, il ne cherche ni sa femme, ni son papa, ni sa maman, ni ses enfants. Ni son frère, ni sa sœur. La seule chose qui importe, c'est al-najat, être sauvé. Nafsi, nafsi. Accéder au paradis. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز. De nos jours, tout le monde cherche faz, al-fawz. On cherche le succès. On cherche le succès à travers les diplômes, à travers les revenus, à travers le sport, à travers je ne sais pas quoi encore. On cherche le bonheur, le succès. Mais le vrai succès, فَقَدْ فَاز, c'est qui فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. La personne qui est le jour de Qiyamah, il voit le Jahannam là, mais il voit que lui, il est amené de l'autre côté. Allah, Allah, Allah. Il voit qu'il s'éloigne du Jahannam. Wa udkhila al-jannah. Et qu'Allah lui fait entrer dans le Jannah. Est-ce que c'est pas lui le meilleur là? C'est lui l'homme le plus heureux, le plus épanoui. Même si dans ce monde, cette personne a connu difficulté, il a connu la pauvreté, il a connu l'humiliation, il a connu le délaissement, il a connu n'importe la maladie, les problèmes, la solitude, quelles que soient les épreuves, du moment que le jour de Qiyamah, il est protégé du Jahannam, il rentre dans le Jannah, faqad de faz, c'est l'homme le plus heureux et c'est l'homme le plus comblé par Allah. Donc comme on dit tout à l'heure, il y a des fois où Allah peut pardonner les péchés d'une personne par les épreuves. Mais on va dire que ça, c'est une rahma de la part d'Allah. C'est dur de comprendre ça. C'est parfois dur de se dire que, ah bon, Allah l'éprouve, mais Allah est en train de l'aimer là. Oui, c'est une rahma de la part d'Allah pour le mu'min, pour le croyant. Que par rapport à ces épreuves, Allah va pardonner ses péchés s'il réagit correctement. Alors que pour d'autres personnes, il n'y aura pas d'épreuve. Il n'y aura rien du tout. Et le jour de Qiyamah, il va payer cash ses erreurs. Et ça, c'est la pire des choses. Cet homme qui vit honoré, adulé, admiré, il a tout. On considère cette personne comme le meilleur dans tous les domaines. Il n'a pas de problème, il n'y a pas rien non plus. Le jour de Qiyamah, il est mis face à ses péchés, à ses erreurs, face au tort qu'il a causé aux gens. Et ça, c'est le mouflis. Celui qui n'aura plus rien avec lui, c'est le pire des scénarios. Encore le pécheur, il sait qu'il a fait des péchés. Mais lui, il n'a même pas goûté à l'alcool, il n'a même pas fait le zina. Il n'a même pas fait tout ça, mais il a agi de la pire des façons avec les gens de ce dunya. Et donc, voici les conséquences du jour de Qiyamah. Donc, quand on a déjà reconnu que toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des mondes, qui est très clément, le très miséricordieux, Malik Yawmiddin, qui est également maître du jour de la rétribution, maintenant, qu'est-ce que on va attester? Qu'est-ce qu'on va dire à Allah? Qu'est-ce qu'on va affirmer? On va dire, oh Allah, Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Deux phrases. C'est-à-dire une phrase composée de deux parties. La première partie, on va dire, oh Allah, c'est uniquement toi que nous adorons. Et là, si on revient un petit peu vers la grammaire arabe, Iyaka, normalement, c'est le maf'oul. Le maf'oul bihi, en français, on pourrait traduire par le COI. C'est quoi le COI? Ah, mashallah, on a eu un savant, là, alhamdoulilah, parce que celui d'hier nous a déçu. Je ne sais pas c'était qui. Vous ne connaissez pas le siècle des Lumières, je ne sais pas où ça il est. Le complément d'objet indirect, d'accord? Normalement, le complément d'objet indirect, en arabe, il vient après le verbe, le complément, d'accord? Là, on l'a mis avant. Il y a, normalement, on aurait dû dire soit na'abuduka, ou alors na'abudu iyaka, ou la na'abudu illa iyaka, mais là, on a mis iyaka na'abudu. Et ça, c'est une figure de style qui est propre au Coran, c'est l'ifadatil hasri. C'est pour montrer que c'est uniquement toi. C'est comme on l'avait vu dans Bismillah, il y a un verbe qui est sous-entendu, abtadi, ou je commence. Mais on démarre directement par Bismillah, le nom d'Allah, pour montrer que c'est uniquement par le nom d'Allah qu'on commence. Uniquement par Allah. Ça, c'est le tawhid, même dans le basmala. Là, dans Iyaka na'budu, on commence par le COD, le COI, le complément d'objet, qui normalement doit être après. On le met avant pour montrer que, oh Allah, c'est uniquement toi que nous adorons. Ça, c'est le ikhlas, la sincérité du croyant dans le culte, dans l'adoration. Donc, هذا إياك نعبد لإفادة الحصر pour montrer qu'on adore لا نعبد إلا إياك. Nous n'adorons que toi, ô Allah. Et les ulama de tawhid et les mufassirin, les muhaddithin, ils donnent la définition du ibadah, disent que le ibadah, l'essence du ibadah, c'est التذلل والخضوع لله, c'est se soumettre, c'est se rabaisser, s'humilier, se soumettre à Allah, se soumettre à notre Seigneur, se soumettre à ses ordres. Et dans chaque ibadah, dans chaque acte, d'adoration qu'on accomplit, on doit retrouver la soumission vers Allah. La salah, c'est une soumission. C'est montrer qu'on appartient à Allah, qu'on fait des adorations comme Allah nous a demandé. On va quitter notre temps libre ou notre temps de travail, nos occupations. On va tout délaisser pour faire le ibadah, l'adoration d'Allah. Le saum, on va abandonner nos pulsions, notre nourriture, notre boisson, etc., etc., pour se soumettre aux ordres d'Allah. Donc, tous les actes d'adoration ont comme point commun la soumission, la reconnaissance de la divinité d'Allah et la reconnaissance de notre position de makhlouq, de créature. Et en commentaire, le Mufassir explique, c'est pour ça que, quand on parle de la salah, « وَلِذَا تَجِدُ الْمُؤْمِنِينَ يَضَعُونَ » Magnifique parole. « أَشْرَفَ مَا فِي أَجْسَامِهِمْ فِي مَوْطِئِ الْأَقْدَامِ » Et pour cela, on voit que le croyant, il va poser la partie la plus honorée de son corps au niveau du sol, là où on met les pieds, par soumission à Allah. Et on parle de quelle position ? Le sijda. Quelle est la partie du corps humain la plus honorée ? Le visage. Quand quelqu'un veut se faire beau, hein, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas bien se laver les mains, il ne va pas se parfumer les mains, il va laver le visage, il va, etc., etc. Quand une femme veut se faire belle, c'est à travers le maquillage, c'est sur le visage, pas sur les pieds qu'on met. Donc l'endroit le plus honoré, c'est le visage. Et le sijda, justement, la prosternation, c'est ce qui est le plus honoré dans l'être humain, c'est le mettre au plus bas du sol, au niveau des pieds. Et en même temps, on met le visage au niveau des pieds. C'est déjà le gestuel, mais la parole qui va être jointe avec, c'est quoi ? C'est la lecture du tasbih, Subhana Rabbi al-A'la. Et al-A'la, on avait expliqué dans Riyad al-Salihin, al-A'la c'est comme Sabbih isma Rabbikal. Al-A'la, ça vient du al-Ulu, l'élevé, celui qui est le plus haut. Donc vous voyez le paradoxe, en même temps on se met au plus bas, en même temps on reconnaît que, oh Allah, toute pureté à toi, toi qui es le plus haut, le plus élevé. Et ce qu'il y a de plus honoré, là aussi le paradoxe, ce qu'il y a de plus honoré, qu'on protège le plus et qu'on aime le plus le visage, on met à l'endroit des pieds, on met les pieds au sol par soumission à Allah Azza wa Jal. Ça c'est Al-Inkisar, c'est vraiment se soumettre à Allah Rabbul Izza. Et c'est pour ça que notre prophète alayhi salat wa salam dit que la position où l'homme est le plus proche d'Allah, c'est le sijda. Hadith de lequel le prophète dit, la position où l'homme est le plus proche d'Allah, c'est le sijda. Et là aussi, on voit que la logique humaine ne fonctionne pas dans la compréhension du din. Parce que, allez bon, c'est vrai qu'entre là où on est jusqu'au trône d'Allah, bon, hein, on parle de milliards d'années-lumière, c'est pas 1m80 ou 1m70 qui va changer quoi que ce soit, mais on aurait pu se dire que plus on s'élève, plus on va en haut, plus on est haut, plus on est proche d'Allah. Non, au contraire, plus on se rabaisse sur le sol, plus on est proche d'Allah. C'est-à-dire que dans la prosternation, alors que c'est une position où on est encore plus bas du sol, au niveau du sol, mais c'est dans la prosternation qu'on est en fait le plus proche d'Allah Azza wa Jal, parce que c'est la position par excellence de la soumission envers Allah. Maintenant, dans Iyaka Na'budu, on a compris l'essence du terme Na'budu, c'est uniquement toi que nous adorons, le terme adorons. Maintenant, le Ibadah. Le terme ibada, c'est quoi ? On sait que quand on parle de ibada, c'est quelque chose qui est exclusif entre les créatures et le créateur. Le ibada concerne uniquement Allah. Ça ne concernera, bien sûr, jamais autre qu'Allah. Autrement, c'est du shirk. C'est quoi le ibada ? Les ulama de tawhid expliquent ibada, c'est fi'la. C'est huwa fi'lu kulla ma amara Allah bihi wa tarku kulla ma naha Allah anhu. C'est faire tout ce qu'Allah a ordonné et délaisser tout ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Comme on avait dit tout à l'heure, les deux marchent ensemble. Les deux sont indispensables et sont indissociables. C'est-à-dire que pour se rapprocher d'Allah, pour être un abid, dans Iyaka Na'budu, il y a le verbe adorer, abada, qui est au mudari' marfou', qui est au présent l'indicatif. Maintenant, on a le ism fa'il, l'adorateur. Pour être un abid, pour être un adorateur d'Allah, il y a deux choses à faire. Faire les bonnes œuvres, mais également s'éloigner du haram. Parce que uniquement accomplir de bonnes actions, mes chers frères, ça n'est pas suffisant. Si quelqu'un ne délaisse pas les péchés, il ne deviendra jamais quelqu'un de pieux. D'ailleurs, les hauts degrés de iman, qu'on appelle ihsan, le plus haut degré de foi, c'est al-ihsan. Le degré de taqwa, la crainte d'Allah, le niveau, hein, cette sensation qui s'appelle le halawatul iman, trouver la douceur de la foi, tous ces hauts niveaux spirituels ne sont pas compatibles avec l'accomplissement de péché. Ça, c'est pas possible. Si quelqu'un cultive un péché en permanence dans sa vie, il ne pourra jamais devenir un fidèle adorateur d'Allah. Maintenant, un péché qu'on accomplit occasionnellement ou par erreur, ça c'est autre chose. Ça, on demande tawbah et Allah est généreux, Allah est pardonneur. Mais maintenant, si quelqu'un est abonné à un péché particulier, d'accord? Par exemple, quelqu'un il pourra faire toutes ses salats comme il faut au premier rang, lire le Coran après salat al-fajr jusqu'au shuruq, faire deux raka'at et tout, etc. Faire tout ça. Mais si, je donne un exemple, hein, mais si la personne, par exemple, c'est un jeune, il a une copine. Il a une copine. D'accord? C'est pas, quand je dis une copine, c'est pas une épouse, hein? C'est une copine, d'accord? Ben, ce péché-là l'empêchera d'atteindre le degré de taqwa. Même si, mashallah, il fait beaucoup de bonnes choses, mais ça, c'est quelque chose qui va le faire reculer en permanence. N'obtiendra jamais la taqwa tant qu'il aura un pied dans le zina. Et je dis un jeune, ça peut être une personne mariée aussi, hein? Personne qui a des enfants et tout, 20 ans, 30 ans de mariage, mais il aime faire un petit peu l'imbécile à droite, à gauche, ben ça aussi, ce péché-là, ça l'empêchera d'atteindre le taqwa. Ça l'empêchera de devenir un pieux serviteur d'Allah Azza wa Jal. Là, on ne parle même pas des conséquences du péché de ce dunya, des conséquences des péchés de l'au-delà. Là, on parle de niveau de iman. Là on n'est pas dans les péchés avec précision. On est dans mustawa, dans le degré de foi. Pour connaître dans quel degré de foi je suis. Tant que j'ai un péché régulier, je ne pourrai jamais monter de grade dans le iman. Autre exemple, je fais plein de bonnes choses, mais j'ai des péchés réguliers qui reviennent. Par exemple, je ne sais pas moi, la musique, ou alors consommer quelque chose qui n'est pas bon, ou alors je ne fais pas attention à ce que je mange. Est-ce que ce que je mange c'est halal, c'est pas halal? Tout ça, c'est des choses qui vont nous faire reculer. C'est comme si que quelqu'un il fait deux pas en avant, mais après il fait deux pas en arrière. En finalité, il est où? Il est resté sur place. D'accord? Donc, ibada iyyaka na'budu sayyid wa Allah, c'est toi que nous adorons. Ça veut dire quoi adorer Allah? C'est faire les bonnes œuvres, tout ce qu'Allah nous a demandé, mais c'est s'éloigner également de tout ce qu'Allah a rendu haram. Inch'Allah, c'est clair, le terme de ibada et le sens profond de ibada. Et wa iyyaka nasta'in, on va aller un petit peu plus vite sinon on ne pourra jamais compléter. Wa iyyaka nasta'in, et c'est auprès de toi que nous trouvons le refuge, nous demandons de l'aide. Et quand les savants disent, j'ai pas la traduction de Fatiha exacte, nous demanderons de l'aide, les mufassirin expliquent que wa iyyaka nasta'in ay la nasta'inu illa iyyaka 'ala al-'ibadati wa ghayriha. Là pareil, on va pas répéter la même règle, on a mis wa iyyaka nasta'in, on a mis le complément d'objet indirect avant pour montrer que c'est uniquement auprès de toi que nous cherchons l'aide, que nous demandons de l'aide, que nous trouvons le secours, que nous demandons ce que nous avons besoin. Et la première chose, le Mufassir explique que وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ أَيْ الْإِسْتِعَانَ عَلَى الْعِبَادَ. C'est-à-dire que c'est auprès d'Allah que nous demandons tawfiq, que nous demandons de l'aide pour être de fidèles adorateurs. C'est-à-dire, le إِيَّاكَ نَسْتَعِينَ est nécessaire pour renforcer le إِيَّاكَ نَعْبُدُ. C'est-à-dire, nous demandons l'aide à Allah, al-aoun, nous demandons à Allah de nous aider, de nous accepter, donc de nous donner ce qu'on appelle tawfiq pour faire son adoration. Enfin, ils disent que c'est uniquement avec le tawfiq de la part d'Allah qu'on pourra faire les bonnes œuvres. C'est pour ça que, mais tout démarre des efforts. C'est-à-dire qu'il faut bien, ça c'est un principe assez complexe, on ne peut pas expliquer rapidement, mais c'est un schéma très simple. En même temps, on a besoin qu'Allah nous accepte. Mais comment on va dire? On attend, ben je reste de mon fauteuil, de mon canapé, quand Allah m'accepte, je vais venir à Salah avec vous. Parce que tout vient tawfiq min Allah. C'est Allah qui choisit, c'est Allah qui donne la guidée. Donc j'attends que la guidée arrive, je deviendrai un bon musulman. Entre temps, je joue ma PSP, je joue mon je sais pas quoi, je fais mes bêtises, je ne viens pas à la masjid. Là, wallah. Allah Azza wa Jal attend du serviteur un effort, un premier pas. Quand il y a eu un premier pas sincère, Allah Azza wa Jal va faire deux pas vers toi. Vous connaissez le hadith de lequel le Prophète dit que lorsque ce hadith qu'on dit, lorsqu'un serviteur fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Lorsqu'un serviteur avance vers Allah d'un empan, Allah Azza wa Jal avance vers lui d'une coudée. Celui qui vient, à la fin du hadith, celui qui vient vers Allah en marchant, Allah Azza wa Jal vient vers lui en métaphore, en courant. C'est-à-dire que vous faites un pas Allah vous acceptera plus. C'est-à-dire qu'à la base, il y a l'effort que le musulman doit faire. C'est-à-dire, quelqu'un se dit que ben, comment est-ce que je peux me rapprocher d'Allah si Allah ne m'accepte pas, si Allah ne me donne pas la guidée. Certes, on demande à Allah de nous choisir, de nous accepter pour être un bon musulman, un bon serviteur. Maintenant, on fait des efforts. Par exemple, là aujourd'hui, samedi, il est 21h, d'accord ? J'ai derrière moi un passif rempli d'erreurs, rempli de péchés. Musique, adultère, alcool, manque de respect envers les parents, plein de choses. Malheureusement, les péchés qu'on retrouve dans la société. Je veux un changement radical dans ma vie. Je veux devenir un bon croyant. Je demande à Allah de m'aider. Oh Allah, accepte-moi, pardon, d'accord ? C'est le premier pas. Le premier pas doit émerger du cœur, c'est-à-dire prise de conscience que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était pas bon. Tant que je ne serai pas convaincu que ce que j'ai fait, c'était pas bon, je ne vais pas avoir la motivation et la condition importante, la condition sine qua non, je voulais dire, pour l'acceptation du tawbah qui est la sincérité. Comment être sincère quand on demande pardon si on n'est pas convaincu que ce qu'on a fait c'était un péché? Ce sera un tawbah de façade. Façade en français, pas façade, pas de jeu de mots hein, en arabe. De façade, d'apparence. Il n'y a que si je ne suis pas conscient que le zina, l'adultère ou telle chose, ça c'était pas bien, je ne pourrais pas regretter. Vous voyez, tout ça, ça s'embrique, ça s'enchaîne. Parce que parmi les conditions, on l'avait vu hier du tawbah tout à l'heure, tawbatun nasuha, être sincère, regretter. Comment regretter le péché qu'on a accompli si on n'est pas persuadé que c'est un péché? Si je me dis que ben c'est rien, ça sortait avec une fille, ça c'est de l'amour et tout, mais bon, on demande pardon quand même parce qu'il dit que c'est pas bon. Mais si je ne suis pas convaincu que ça c'est haram, qu'Allah il déteste ça, mon pardon, ma demande de tawba ne sera jamais sincère et il n'y aura jamais de remords. Donc ce tawba ne sera pas, accepté. Donc les savants expliquent que pour vraiment retourner auprès d'Allah, la première chose c'est prendre conscience de nos erreurs. Et prendre conscience que tel péché que je faisais au quotidien, ben ça s'appelle péché ça. Ça, ce sont des choses qui déplaisent Allah Azza wa Jal. Et connaître les méfaits. Et donc regretter. Et là, on peut demander réellement pardon à Allah. Et du moment qu'on a réalisé que ça, c'est pas bon, est-ce qu'on aura encore envie de recommencer? Ben non. Si maintenant je suis persuadé, je suis convaincu que ça, c'était haram, je ne vais pas avoir envie de recommencer. Ça, c'est logique. Et donc, quand je demande pardon à Allah, je vais regretter. Et là, sachant que maintenant, je suis convaincu que ça, c'est pas bien, je vais pouvoir faire l'intention ferme de ne plus recommencer. Dieu Allah, je ne ferai plus. Être ferme de ne plus recommencer, ça commence. La base, c'est être conscient que ça, c'est des péchés. Donc, tout commence par une analyse de notre vie. Chacun doit analyser son quotidien et déceler quelles sont les erreurs. Et quand il a vu à quelles sont les erreurs, maintenant, si on est patient, on demande. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. On demande à un savant, un fundi, voilà, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon. Quand on a vu quels sont les péchés, quitte à faire une liste, hein, j'espère qu'un petit papier c'est assez. Maintenant, s'il faut un grand papier, bon, c'est plus grave, mais au moins on a reconnu nos erreurs. Mais après là, on reconnaît, on demande pardon, on regrette, et on fait nia de ne plus recommencer. Donc là, on peut dire qu'on a bien avancé concernant nos erreurs. Maintenant, il reste l'effort à faire pour les bonnes œuvres. Donc là, si ce soir, j'ai rempli les conditions, j'ai demandé pardon, maintenant, comment me rapprocher d'Allah en faisant un effort? Le premier effort que je vais faire, ce sera quoi? Dites-moi, dans l'ordre chronologique. Là, il est 21h. Quel est le premier effort que je peux faire pour demain? C'est me réveiller pour venir à la mosquée pour Salatul Fajr, en congrégation à la masjid. C'est-à-dire que même si en temps normal, c'est que Ramadan ne me voit, et en temps normal, jamais. Donc, le fait de venir à la masjid, c'est que, mashallah, je fais un effort, je montre à Allah ma motivation, mon envie de me rattraper, de revenir vers le droit chemin. Et quand Allah Azza wa Jal va voir que le serviteur est en train de faire des efforts comme ça, ben Allah Azza wa Jal va l'accepter. Ce n'est pas le sujet, mais les savants expliquent différentes façons pour donner un coup d'impulsion à notre foi pour nous rapprocher d'Allah. La meilleure des choses serait qu'une personne, quand il veut faire un vrai tawbatul nasuha, il fait l'intention de se réveiller qiyamul layl. En plus, en ce moment, c'est costaud, là. En été, c'est très tôt, le suhur, il se réveille. Tôt, il fait qiyamul layl de rakat, et il demande doua à Allah. Et il fait l'intention tous les jours de faire qiyamul layl. Mais quand Allah, Azza wa Jal, voit les efforts que la personne fait. Allah Azza wa Jal connaît l'intention de la personne. Là, Allah Azza wa Jal va l'approcher étape par étape. Il y a des fois, on voit des gens qui font plein de bonnes choses d'un coup, et puis ils s'arrêtent. Ils disparaissent, tout dans la nature. On ne le trouve plus. Ce qu'il n'a pas eu tawfiq de la part d'Allah. Donc, faire les bonnes œuvres avec sincérité, avec prise de conscience, et avec envie de se rapprocher d'Allah. Et tout ça, c'est uniquement en demandant doua à Allah. Wa iyyaka nasta'in, on demande à Allah de l'aide pour faire les bonnes œuvres. Et d'une manière générale, wa iyyaka nasta'in, nous demandons à Allah de l'aide dans toutes les situations de notre vie. Donc quand je lis ce verset, je suis conscient que là je suis debout devant Allah en train de faire la salat, c'est Allah qui m'a choisi. Et je dois demander à Allah, et on va voir après, ihdina sirat al-mustaqim, je vais demander à Allah de me guider vers le droit chemin, qu'Allah me donne toujours tawfiq de faire de bonnes œuvres, comme on avait dit hier et avant-hier, jusqu'à la mort. Et être conscient que c'est uniquement Allah qui peut m'accepter, qui peut me choisir. Donc, demander à Allah tout le temps de me choisir pour être à la masjid, pour faire les bonnes œuvres et de m'éloigner des péchés. Parce que ça aussi, c'est tawfiq min Allah, ça. Rester éloigné des péchés. Regardez l'histoire de Youssouf alayhi salam lorsqu'il était dans le château avec cette princesse qui l'a tenté. Allah Azza wa Jalla l'a éloigné du haram. Il y avait le verset qui ne me revient pas. Hein, c'est Allah qui l'a éloigné, qui l'a protégé du haram. Donc là, ça aussi, c'est un doua qu'on doit demander à Allah de nous approcher, de nous donner la possibilité de faire des bonnes œuvres et de nous éloigner de tout ce qui est, de tout ce qui est haram. Donc, « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». Je pense qu'on va s'arrêter à là, Inch'Allah. Les savants disent également, voyez la véritable notion de liberté dans l'islam. La véritable notion de liberté de l'homme, c'est dans l'islam. Parce que c'est uniquement dans notre dîn, on dit que personne, qu'un croyant ne se prosterne devant personne. Ni même ne doit, subhanallah, ne doit montrer une certaine, comment on peut dire ça, un khudu'. On ne doit même pas se rabaisser devant une personne. Pas se rabaisser dans le sens humilité, mais on ne doit même pas se courber, voilà, je cherchais le terme. On n'a même pas le droit de se courber devant un homme, devant un être humain. C'est uniquement devant Allah qu'on se courbe, on fait le ruku', qu'on fait le sijda. Ça, c'est vraiment l'homme qui est libre. Il ne se soumet qu'à Allah Azza wa Jal réellement. Quand je dis se soumettre, ça ne veut pas dire ne pas obéir à personne. Obéir, c'est autre chose. Ça veut dire que le cœur de l'homme appartient uniquement à Allah. C'est uniquement devant Allah qu'on peut se prosterner, qu'on montre réellement l'humilité. C'est Allah Azza wa Jal qu'appartient notre vie et à personne d'autre. Inch'Allah, demain on va continuer avec Ihdina Sirat al-Mustaqim. Demain c'est dimanche, Inch'Allah. Si on veut compléter lundi soir, il faut Inch'Allah, demain on avance un peu plus. Ihdina Sirat al-Mustaqim et Sirat al-Ladhina an'amta alayhim. Et puis dimanche on complétera avec Ghayr al-Maghdoubi alayhim waladdallin, Inch'Allah. On essaiera de compléter comme on l'avait promis en 7 soirées, Inch'Allah. Qu'Allah nous accepte. Donne tawfiq de comprendre ces paroles, qu'Allah Azza wa Jal fasse entrer la réalité du ibada dans nos cœurs et qu'Allah nous permette, donne tawfiq à chaque personne ici présente d'être de pieux adorateurs d'Allah, de fidèles serviteurs d'Allah jusqu'à la mort et ainsi qu'à nos proches et à toutes les personnes qui sont chères à nos yeux. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah.